Il faut vous enivrer sans trêve. Et de quoi? De vin? De poésie? À votre guise.
J'aime le vin par excellence, parce que le vin est un aliment très nourrissant.
Bienvenue sur Ni Bu Ni Connu, une émission Divergence FM. Je pense que ça va parler de vin.
Et surtout du très très bon vin.
Il ne s'agira évidemment pas ici d'inciter à, mais plutôt d'aborder le vin comme une culture, un univers, un monde.
L'objectif, c'est de parler du monde viticole, qu'on rende hommage au vignoble du Languedoc, à mettre en avant les difficultés du monde agricole.
Et on n'a pas vu encore un petit coup de Bourgogne.
On va revenir à ce principe de naturalité du vin.
Il nous faut un taboulé en bois pour lui donner un petit goût boisé au vin.
C'est un plaisir très intellectuel que parce que genre, t'as envie de rester, de t'asseoir et de penser au monde en buvant ton vin.
J'aime beaucoup ça.
Bon, salut à tous, c'est Ni Bu Ni Connu pour Divergence FM. Aujourd'hui, on est au domaine Cailleul-Gautran, dans le Minervois, dans la partie est du Minervois, Héraultais d'ailleurs. On est avec Nicolas et Olivia Gautran. Olivia et Nicolas Gautran, voilà, mari et femme. Avant de commencer, Nicolas, est-ce que tu peux présenter le domaine?
Le domaine Cailleul-Gautran, c'est 5 générations de vignerons qui se sont succédés sur le cosse du Haut-Minervois. Mon grand-père avait 5 hectares de vignes et aujourd'hui on en a 70 en agriculture biologique et classée sur l'aire d'appellation Minervois et Minervois-Cazel.
D'ailleurs, Cazel, est-ce que tu peux nous parler de la situation géographique? On est où dans le Languedoc ici?
On est à l'extrême est du Minervois, sur un plateau argilo-calcaire à 200 mètres d'altitude. On regarde la Méditerranée qui est quand même assez loin et on est, j'ai envie de dire, sur les premières collines contre le Massif central.
Alors, parle-nous de ton quotidien de vigneron aujourd'hui. Voilà, quelles sont les difficultés auxquelles un domaine viticole en bio est confronté?
Aujourd'hui, il faut séduire. Il faut que le vin, ce soit un produit de séduction, de plaisir et d'émotion. Et c'est le cœur de notre métier d'arriver à transmettre cette émotion à travers nos vins et à travers la dégustation que nos clients peuvent faire.
Et tu as un schéma de difficulté millésime par millésime que tu peux nous raconter, je ne sais pas moi, les maladies, le climat, le problème de rendement. Voilà. Parle-nous de quelques anecdotes de difficultés que tu as chaque année quand on est un domaine en bio.
Je crois que le métier de vigneron, c'est un métier, bon, bien sûr de passion, on l'entend tous les jours, mais un métier d'abnégation et on vit avec notre vignoble, nos vins, nos bouteilles. Donc voilà, c'est un métier complet où il faut vraiment être concentré et se reconnecter. De temps en temps, c'est le terme que j'emploie, il faut se reconnecter au vignoble, à la nature, voilà, à nos vins, en cave également. Les difficultés elles sont climatiques. Il faut comprendre un petit peu ce nouveau cycle de l'eau. Finalement, sous climat méditerranéen, on a des pluies plutôt printanières, hivernales, beaucoup moins automnales. Donc, c'est un stress supplémentaire. Voilà. Et on vit dans un monde de stress et le métier de vigneron est le meilleur exemple finalement de ce stress puisque On vit tous cette évolution climatique. Alors nous, on est encore sur un terroir qui résiste à cette sécheresse, puisqu'on a des pluies qui proviennent un petit peu des descentes de la montagne noire. Un climat, une géographie qui, pour l'instant, nous est encore un petit peu favorable, mais d'abord, on partage le stress des copains vignerons qui sont dans la plaine et pour qui ça va être de plus en plus compliqué. Et ensuite, voilà, on essaye d'adapter notre façon culturelle et la meilleure façon, c'est de prendre soin du vignoble.
Bon, et alors, comment on prend soin du vignoble? Raconte-nous voilà, les gestes, les mains dans le cambouis. Comment on prend soin d'un vignoble?
Donc, comment on adapte le vignoble à l'évolution climatique? D'abord, on adapte la taille. On revient à des fondamentaux qui sont très intéressants. La taille en gobelet qui a été la taille du milieu méditerranéen, ben on la remet au goût du jour, on essaie de la moderniser un peu. Ensuite, on travaille les sols. C'est des choses très importantes pour capter un maximum d'eau, de pluie. Il faut que toute l'eau aille sur les racines et qu'elle ne s'évapore pas. Donc pour ça, on décompacte les sols. Voilà, et c'est beaucoup d'observations l'été, énormément d'observations. On est quand même classé à Haussé-Minervois, Ce qui veut dire qu'on demande des rendements modérés à notre vignoble et ça va être aussi une solution à nos problèmes structuraux. C'est qu'une plante, quand on lui demande de produire relativement peu, elle résiste. Voilà.
On va repartir sur l'histoire du domaine. Alors, Nicolas, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ton domaine viticole, génération après génération? Ça remonte à quand et vadrouille dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui, s'il te plaît.
Alors, l'anecdote que j'ai envie de raconter, c'est mon aïeux qui est mort à la guerre en 1915. Il revient du front, il est blessé et il décède à Lyon sur un lit d'hôpital. Et donc, sa sœur reprend le domaine viticole à sa place. Et avec son mari, elle a quelques hectares de vignes, un troupeau de moutons. Et c'est plus une vie en autarcie qu'une vie réellement de producteur de vin. Mais c'est le début d'une histoire vigneronne. Voilà. Ensuite, mon grand-père professionnalise un petit peu tout ça. Et à la suite, mon père va vraiment le propulser vers le 21e siècle et préparer les bases de ce que le vignoble aujourd'hui et le domaine.
Et toi, tu arrives quand au domaine? Voilà, quelles études tu as fait pour arriver ici? Raconte-nous, toi, ton histoire personnelle à la vigne.
Donc moi, je fais des études en histoire et géographie à l'université de Perpignan et je termine par un DSS de gestion d'entreprise. Mais j'avais toujours à cœur, pendant mes vacances scolaires, de traîner dans le vignoble, de monter sur le tracteur. Évidemment, c'est un peu un jouet quand on est enfant et adolescent de voir ce matériel et puis cette liberté que l'on peut avoir au milieu des vignes. Et à la fin de mes études, en 2004, je commence à travailler à 100% au vignoble. Et en 2006, quand on se marie avec Olivia, on fait le choix de revenir au vignoble et de créer une perspective moderne au domaine.
Alors voilà pour ton histoire au domaine. C'est toi qui as transitionné justement Cahul Gautran vers le bio. Parle-nous, voilà, on est au milieu des années 2010, parle-nous de cette transition. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour te dire j'ai envie d'aller vers une agriculture biologique?
Alors tout d'abord, les fondamentaux de la stratégie du domaine aujourd'hui, je l'ai un petit peu construite à travers mes expériences et mes échanges que j'ai pu avoir lors de cette vie universitaire. Et quand je reprends le domaine avec Olivia en 2006, on commence à se poser réellement la question de passer bio. On trouve que cette démarche est qualitative et qu'elle s'inscrit vraiment dans la modernité, dans ce que doit être finalement un vin d'appellation en Languedoc. Mais en 2006, quand on commence, on n'est pas certain des techniques, on n'est pas encore sûr, hein, bien sûr, parce que quand reprendre un domaine viticole, c'est conduire un grand paquebot. Donc aujourd'hui, il y a 70 hectares et on n'a pas vraiment le droit de se tromper. Donc en 2006, avec Olivia, on se dit, bon, pourquoi pas le bio, mais on est encore un peu trop inexpérimenté. Et on fait la transition quelques années après. En août 2017, je me dis que là, c'est vraiment le moment. Soit c'est maintenant, soit c'est jamais. Et on se lance. Voilà. Donc, on avait déjà beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi à savoir comment travailler en bio et comment produire du vin en agriculture biologique. Et le début de l'aventure, c'est août 2017.
C'est quoi la différence, du coup, dans ton exploitation, entre une culture conventionnelle et en bio? Voilà, c'était quoi la différence entre les deux?
Ben, je résume souvent la transition entre une agriculture conventionnelle et une agriculture biologique par le fait de dire on a remplacé la chimie par le travail. Voilà. Donc on a enlevé les produits chimiques pour enlever l'herbe par une charrue qui le fait mécaniquement. Donc c'est du travail supplémentaire. Donc on adapte notre matériel à ce travail supplémentaire et on y arrive. Il n'y a pas de raison. Il faut d'abord, je crois qu'il faut quand même y croire et avoir envie de le faire. C'est souvent les fondamentaux dans tous les métiers, avoir envie. Et ensuite, ça vient tout seul.
Et d'un point de vue traitement, je sais qu'en conventionnel, on est sur des fongicides de synthèse, comme le folpel ou d'autres molécules qui vont être systémiques, qui vont rentrer dans le cœur de la plante et agir pendant 15 semaines contre le mildiou ou l'oïdium. En bio, comment ça se passe?
Alors je voudrais quand même raconter aussi autre chose, c'est que mes grands-parents sont sortis un petit peu de cette misère agricole d'arrière-pays languedocien par la chimie. Et c'est cette chimie d'après-guerre qui nous a permis, après une modernisation dans les années 90 et 2000, aujourd'hui de produire en agriculture biologique et d'arriver à en vivre. Voilà. Donc on a traversé le XXe siècle avec de la chimie. Aujourd'hui, on arrive à s'en passer, mais c'est tant mieux. C'est une porte ouverte vers plus d'écologie pour nos enfants. Ça, c'est très bien, mais voilà. Il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et aujourd'hui... on a quand même un beau panel de produits qui nous permettent d'agir en agriculture biologique, qui se modernise aussi, ces produits se modernisent, ces techniques de pulvérisation vont se moderniser, et je pense que dans l'avenir, on va encore franchir une étape vers plus d'écologie et plus de protection de l'environnement.
Donc concrètement, quand tu as une pression fongique, hein, le fameux mildiou, hein, je l'appelle le général mildiou, comment tu le combats ce général mildiou alors ?
Donc on a encore la bouille bordelaise qui va être autorisée pour le millésime 2026. Ensuite, on a des biocontrôles. Et donc voilà, on a encore des produits qui nous permettent de maîtriser le mildiou, l'oïdium, le ver de grappe avec la confusion sexuelle. Donc voilà, il faut être attentif à ce qui se passe et travailler. Voilà, on a vraiment remplacé la chimie par le travail.
Bah, tu dis le travail, mais moi j'entends souvent dans le vignoble, dans des domaines, le vigneron ou la vigneronne qui se lève à 4h du matin pour aller traiter avec son tracteur. Bah, voilà. Parle-nous d'une anecdote de traitement.
C'est-à-dire que du 1er mai au 15 août, effectivement, le réveil sonne à 2h du matin, mais quand on est motivé, ben, on se lève avant le réveil et puis on y va. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. L'anecdote que je vais échanger avec vous, c'est que quand j'étais en agriculture conventionnelle, je me protégeais avec une combinaison, un masque, et je savais pertinemment que j'étais jamais assez protégé. Et quand je voyais mes enfants rentrer dans la cour, j'étais pas satisfait de mon travail. Et aujourd'hui, en utilisant des produits, des biocontrôles ou de la bouille bordelaise, on se sent quand même beaucoup mieux. Même si on se méfie toujours de cette chimie qui paraît moins violente. Mais on se sent beaucoup mieux d'utiliser ces produits-là. Voilà.
Alors on est avec Olivia Gautran, hein, la femme de Nicolas, qui a rejoint Nicolas Audemène il y a quasiment 20 ans maintenant. Olivia, est-ce que tu peux te présenter ? Qu'est-ce que tu faisais avant d'être vigneronne ici ?
J'ai terminé mes études en génie chimique et biologique et ben voilà, je suis arrivée dans le Minervois. Le Minervois m'a adoptée, le vigneron aussi.
Raconte-nous un peu ce parcours d'études supérieures.
Ben écoute, c'est de la chimie industrielle pour travailler soit dans un grand labo pharmaceutique, soit dans une entreprise agroalimentaire.
Ok. Alors tu arrives ici au domaine au milieu des années 2000. Tu as commencé directement par vendre les vins du domaine. Voilà. Quelles ont été tes missions au début ?
Oui, au début, je me suis rendu compte que le vigneron, il avait trois casquettes. Hein, celle de faire produire d'abord, de produire de jolis raisins. Il fallait ensuite qu'il les transforme en vin. Et la dernière casquette, c'était vider les cuves et vendre ce vin. Donc je me suis dit que j'allais prendre une casquette et essayer de présenter ce produit que nous produisons, ce bon vin, au plus grand nombre et de le faire connaître.
Bon bah, raconte-nous un peu, qu'est-ce qu'il y a à vendre ici, voilà, comment se structure la gamme, combien de bouteilles à tel type de client, quels sont d'un point de vue chiffres la vente de vin au domaine ?
Donc nous produisons des vins dans les trois couleurs, hein, tout est classé en Minervois, on a à peu près une dizaine de bouteilles et on fait aussi du vin en petit vrac, hein, en bag-in-box, et après on a aussi une partie qu'on vend en vrac, en grande quantité.
Ok, et au niveau des marchés alors, comment ça se structure sur la partie vente de vin en bouteille ?
Donc la vente de vin en bouteille, c'est essentiellement d'abord sur le marché français, hein, cavistes et restaurateurs et grossistes en France. On a également une très bonne clientèle de particuliers, hein, des gens qui viennent au caveau et que nous allons rencontrer également sur des foires. Puis on a également une clientèle à l'export, donc Europe proche et un peu plus loin.
Bon, merci Olivia pour toutes ces informations. Aujourd'hui, le monde du vin est en crise. Comment tu vois les choses par rapport à ça ?
Eh bien, c'est vrai que le monde du vin est en crise. Heureusement, donc nos clients sont fidèles. Je pense qu'il faut, il faut continuer à préserver ce lien que nous avons avec nos clients, hein, du plus petit au plus important. Et puis ensuite, il ne faut pas pleurer sur son caillou. Il faut aller à la rencontre, hein, des différents partenaires ou prospects et leur montrer qui nous sommes, leur parler et leur présenter nos produits et les aider éventuellement aussi à faire la promotion de ces vins.
Ce que tu veux dire par là, c'est qu'en fait, avec la crise, tu travailles beaucoup plus pour vendre la même quantité qu'avant, c'est ça ?
Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est difficile de trouver de nouveaux clients qui soient prêts à investir en fait sur un nouveau domaine avec de la communication, former les équipes, etc. Donc, il faut montrer en fait aux différents interlocuteurs qui nous sommes et les aider éventuellement aussi en faisant par exemple leurs portes ouvertes ou en allant les aider sur le terrain aussi à parler du domaine pour faire rayonner et les aider à vendre.
Donc dans l'émission hein, sur Divergence FM, on a envie aussi de parler des femmes dans le monde du vin. Voilà, on le sait, c'est un monde assez masculin. Depuis des années, il y a beaucoup de femmes qui en souffrent. Bon, j'ai pas l'impression que ce soit forcément le cas avec toi, mais voilà, est-ce que toi, tu as eu des difficultés tout au long de ta carrière depuis 20 ans voilà, d'être une femme, peut-être tu as dû vraiment gonfler le buste. Raconte-nous tes difficultés.
Oui, c'est vrai que bah, pour s'imposer en fait dans ce monde d'hommes, bah, d'abord je suis allée faire des études d'œnologie à Montpellier hein, pour savoir un petit peu mieux de quoi je parlais et avoir plus d'arguments hein, finalement face aux hommes de la profession. C'est pas évident de faire entendre la parole d'une femme dans un monde aussi masculin. Voilà, bon, j'ai des tas d'anecdotes, hein, mais.
Ouais, on n'a pas 3 heures malheureusement. Bah, écoute, merci en tout cas Olivia pour avoir parlé de ton métier et on va passer maintenant à la dégustation. Donc là on est avec la cuvée Villa Lucia Blanc. Qui a envie de la présenter ? Nicolas, Olivia ? Allez, c'est Olivia, elle est plus proche de moi. Alors Villa Lucia, déjà c'est quoi ?
Alors, Villa Lucia, c'est le nom d'une villa gallo-romaine qui se trouve sur le plateau de Cazelles, dans laquelle nous avons entreposé nos barriques durant quelques années, jusqu'à ce qu'il y ait finalement un nombre trop important de barriques et que ce soit plus simple d'élever le vin ici, à côté de nous, au domaine. Et donc, nos deux vins boisés, nos deux vins qui sont élevés en barriques, s'appellent Villa Lucia. Donc, on a la cuvée Villa Lucia en blanc et également en rouge.
Bon, il y a quoi dans ce Villa Lucia blanc ?
Alors, c'est un blanc donc du Minervois, c'est un blanc d'assemblage. Il y a 4 cépages, grenache blanc, marsanne, roussanne et grenache gris.
Allez, on déguste. Donc ouais, il y a un petit boisé au nez, on voit, c'est assez fin, un petit côté noisette grillée. On est sur combien de temps d'élevage en barrique ?
Alors, le vin, en fait, va terminer la fermentation en barrique. Et ensuite, on va le laisser en barrique pendant à peu près 8 mois.
Oh, il y a quand même un élevage sympa dessus.
Il y a un élevage sympa, en effet. On va pas non plus mettre uniquement du vin boisé dans l'assemblage. On va assembler barrique et cuve pour que le boisé ne soit pas trop prédominant, pour laisser la part belle au vin, en fait.
Bon, Nicolas, toi, raconte-moi un peu avec quoi on pourrait... quel plat, quel aliment on pourrait mettre avec ce vin ?
Alors, le Minervois, c'est d'abord un terroir de rouge. Donc, quand on a commencé à faire du blanc, on a découvert un monde nouveau qui s'ouvrait devant nous. Donc, on a retravaillé l'acidité des vins pour avoir un support acide et pour pouvoir garder des vins un peu plus longtemps. Donc c'est très intéressant, ça nous a inspiré aussi pour les rouges. Et aujourd'hui, c'est vrai que les rouges sont de plus en plus sur la fraîcheur, sur la vivacité, on parle beaucoup de fraîcheur, c'est même galvaudé comme terme, mais cette fraîcheur, finalement, on l'a travaillée d'abord sur nos blancs, on l'a redécouvert sur nos rouges. Et aujourd'hui, on n'a pas peur de dire qu'on a vraiment un terroir qui est très intéressant pour les blancs et même des blancs de garde, hein, puisque là on est en train de déguster un blanc 2023. On a parlé d'élevage barrique, d'élevage en cuve. Ça nous est arrivé cet été de goûter des millésimes un peu plus anciens. On n'a pas à rougir par rapport à d'autres appellations beaucoup plus prestigieuses. Donc, les vins du Languedoc montent en gamme et on en a la certitude et l'exemple encore aujourd'hui.
Et avec quoi alors avec quoi on mange ça alors ?
Avec quoi on mange ça, Olivier ? Avec quoi tu manges ça alors ?
Ah, mais moi j'aime beaucoup le Villa Lucia Blanc servi sur une pintade. Hein, sur une volaille, c'est un vin qui va très bien se marier. Un plat un peu riche, hein, avec un peu de crème. Voilà, une viande blanche en général, ça peut être du veau. Un poisson également, hein, bien sûr. Et sinon, un fromage sec aussi, j'aime bien, comme un comté, par exemple.
Oui, on imagine bien un petit fromage de chèvre qui vient d'Écosse là-dessus, avec l'acidité du Villa Lucia, c'est vraiment canon. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux de m'avoir en tout cas reçu chez vous. Et puis en tout cas, bonne dégustation à tout le monde. Merci à vous.
T'as envie de rester, de t'asseoir et de penser au monde en buvant ton vin ?
J'aime beaucoup ça.
Nouvelle chronique vin sur millésime bio. On est à l'abbaye de Valmagne, à côté de Montpellier, entre Montpellier et Sète, on peut le dire. Super vin que j'ai sélectionné pour vous, chères auditrices et auditeurs. Turenne 2022 en grès de Montpellier. À l'époque, encore Languedoc grès de Montpellier. Mais avant de commencer, on va demander à Roland Dallène, le vigneron, on peut dire ça comme ça, du domaine. Roland, est-ce qu'avant de commencer, vous pouvez nous présenter l'abbaye de Valmagne, le domaine ? Qu'est-ce que c'est ?
Alors l'abbaye de Valmagne, c'est un domaine familial qui est dans la famille depuis 1838. C'est le comte de Turenne qui a acheté l'abbaye en tant que domaine viticole. C'est une abbaye cistercienne qui date de 1139. Et aujourd'hui, c'est géré familialement. Donc moi, je m'occupe des vignes et du restaurant. Et mon père et ma sœur s'occupent du monument historique.
Ok. Et donc, ouais, c'est vrai que l'abbaye est assez connue pour le tourisme. Hein. C'est un haut lieu de notre région, notre département. Et niveau domaine, faites-nous la carte d'identité du domaine viticole.
Eh bien, en fait, aujourd'hui, nous, on se base sur trois terroirs. Donc voilà ce qu'il faut avoir en tête, c'est les terroirs au sud de l'abbaye qui sont les terroirs profonds qui font les vins de pays. Et on a les terroirs sur les côtés de l'abbaye qui sont sur une roche calcaire et qui donnent beaucoup de fraîcheur au vin. Et enfin, le dernier terroir, c'est au cœur des garrigues derrière l'abbaye, sur des argilites rouges.
Vous faites combien de cuvées alors au domaine ?
On a entre 10 et 12 cuvées selon les millésimes.
Et vous êtes passé du coup en bio depuis quelques années et en biodynamie. Présentez-nous un peu pourquoi se diriger vers le bio et ensuite vers la biodynamie.
Alors en fait, on est passé en bio en 99, c'est mon père qui a fait la conversion. Donc ça va faire bientôt 30 ans qu'on est bio. Lui, il est passé bio parce qu'on avait retrouvé dans la source des marques d'engrais chimiques et ça ne lui convenait pas. Et il a eu tout à fait raison. Moi, quand je suis rentré au domaine en 2017, avant j'étais agent parisien et je goûtais beaucoup de vin en biodynamie. Du coup, j'avais un peu cette appétence pour cette mode de culture. Je l'ai essayé sur plusieurs parcelles, j'ai été convaincu et depuis 2023, je suis en conversion vers le label Biodivin.
Okay. Et comment ça se passe cette conversion alors ?
Très bien. Je pense que quand on maîtrise bien le bio, c'est plus facile de passer de bio à biodynamie que de conventionnel à bio. Biodynamie, ça demande de passer, de bien maîtriser le bio et de passer quand même des préparations. Mais si on est équipé, ça se fait bien.
Alors, parlons de cette conversion à Biodivin. Déjà, pourquoi avoir choisi Biodivin ? Et est-ce que peut-être vous pouvez nous dire comment ça se passe concrètement dans les faits, peut-être administratif d'ailleurs, cette conversion vers ce label ?
Bon, en fait, moi je suis passé chez Biodivin parce que j'avais un ami, le domaine de la Marelle, Frédéric Porot, avec qui j'ai échangé beaucoup, qui était déjà adhérent Biodivin et qui m'a dit « Écoute, si tu veux, moi je peux te parrainer ». Donc c'est comme ça que je suis rentré dans l'association. Et depuis 3-4 ans que je suis dans l'association, en fait, c'est beaucoup basé sur les échanges. Il y a un cahier des charges qu'il faut respecter, mais qui fait preuve d'assez de souplesse, parce qu'ils savent qu'à la fin de la journée, on est quand même des agriculteurs et qu'on ne peut pas appliquer à un moment donné une préparation. Donc, c'est ce qui permet au sein de Biodivin de pouvoir avoir de plus en plus d'adhérents et que moi, je puisse travailler sereinement.
Bon, revenons à la cuvée Turenne 2022. Je vous laisse nous la présenter, sa carte d'identité, comment elle est faite, comment c'est au nez et en bouche.
Alors, Turenne, d'abord, il faut savoir que c'est notre cuvée phare, parce que c'est notre aïeul qui, en 1838, a acheté l'abbaye. Donc, c'est vraiment la cuvée qui est la plus connue du domaine. Sur le millésime 2022, donc c'est un millésime très chaud. Je pense que c'est un des millésimes les plus chauds qu'on ait connu. On a eu une canicule tout l'été. Et moi, je suis surpris de voir la fraîcheur qu'il y a dans ce vin. Alors, c'est peut-être dû au mode cultural, notamment à la présence de l'herbe et la biodynamie. J'ai assemblé une majorité de grenache sur 2022 que j'ai mis avec du Mourvèdre, un peu de Syrah et du Morastel. Et j'ai décidé cette année-là de les élever dans des barriques de 80. Et une partie cuve et une partie dans ces barriques de 80.
Bon, et niveau saveur, odeur saveur, c'est comment alors? Racontez-nous.
C'est la garrigue. Nous, en fait, on essaye de travailler de manière à ce que le vin soit fidèle au terroir. Donc, il faut imaginer que les parcelles de la cuvée de Turenne, elles sont vraiment au cœur du thym, du romarin, des cyprès, chêne vert, chêne kermesse. Donc, on retrouve ces arômes en bouche. On va aussi retrouver le fruit, notamment du grenache. Donc, c'est les fruits rouges. Et l'idée, c'est que tout se mêle et tout en équilibre. Et qu'il y ait de la fraîcheur, notamment, qui est amenée par les terroirs. Et tout ça fait un vin harmonieux.
Bon, vous êtes situé à Montagnac, c'est ça?
Entre Montagnac et Villevérac, ouais.
C'est quoi la ville?
Villevérac.
Bon, bah, retrouvez l'abbaye de Valmagne à Villevérac, ouais. Entre Sète et Montpellier, pour découvrir les vins du domaine. Merci à vous, en tout cas.
Avec grand plaisir.
Il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin? De poésie? À votre guise.
J'aime le vin par excellence, parce que le vin est un aliment très nourrissant.
Bienvenue sur Ni Bu Ni Connu, une émission Divergence FM. Je pense que ça va parler de vin.
Et surtout du très très bon vin.
Il ne s'agira évidemment pas ici d'inciter à, mais plutôt d'aborder le vin comme une culture, un univers, un monde.
L'objectif, c'est de parler du monde viticole, qu'on rende hommage au vignoble du Languedoc, mettre en avant les difficultés du monde agricole.
Et on n'a pas vu encore un petit coup de Bourgogne.
On va revenir à ce principe de naturalité du vin.
Il nous faut un taboulet en bois pour lui donner un petit goût boisé au vin.
C'est un plaisir très intellectuel, parce que t'as envie de rester, de t'asseoir et de penser au monde en buvant ton vin.
J'aime beaucoup ça.